Vous écoutez France Culture, il est pile 12h30. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent tout de suite le journal. Il est présenté par Antoine Marette. Bonjour Antoine.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Nouvelle journée de mobilisation en Algérie contre Abdelaziz Bouteflika. Les soutiens au candidat à un cinquième mandat s'effilochent, mais l'opposition a bien du mal à se structurer.
Les conditions du contrôle judiciaire de Carlos Ghosn jugées insuffisantes par le bureau des procureurs de Tokyo. Il estime que les mesures en échange de la libération de l'ancien patron de Renault et Nissan ne sont pas assez strictes pour l'empêcher de falsifier des preuves.
Le gouvernement italien au bord de la rupture, en cause la ligne TGV Lyon-Turin. La Ligue est pour. Le mouvement 5 étoiles est contre, il considère que c'est un gaspillage de l'argent public.
La journée internationale du droit des femmes et à cette occasion, un nouveau prix a été remis, le prix Simone Veil qui a été remis à Issa Doumara. Elle a cofondé l'association de lutte contre les violences faites aux femmes au Cameroun.
L'invité Europe du journal sera Nathalie Griesbeck, eurodéputée du Modem. Avec elle, nous parlerons des femmes en politique et en Europe. 12h55, seconde partie de la grande table avec vous Marie.
Et dans l'actualité des idées, notre invité est Françoise Vergès, son livre « Pour un féminisme décolonial » est paru aux éditions de La Fabrique. Je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure. L'acte 3 en Algérie contre Abdelaziz Bouteflika. Ce vendredi est une nouvelle journée de manifestation contre un cinquième mandat du président sortant. Vendredi, d'ores et déjà surnommé sur les réseaux sociaux le vendredi du départ ou encore la journée de la chute finale. Abdelaziz Bouteflika, affaibli physiquement, est également un président de plus en plus isolé. Dans ses rangs, les défections se multiplient, Valérie Crova.
La plus emblématique est celle de la puissante organisation nationale des Moudjahidines, qui regroupe les anciens combattants de la guerre d'indépendance. Elle a apporté son soutien au mouvement de contestation, tout comme plusieurs branches de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, qui se sont démarquées de son inamovible secrétaire général et soutien du président Bouteflika. Des personnalités ont également démissionné, notamment le vice-président du Forum des chefs d'entreprise, l'équivalent du MEDEF algérien. Cette organisation patronale est dirigée par un proche du clan Bouteflika. Parallèlement, plusieurs organisations professionnelles ont fait entendre leur voix. L'Ordre des médecins algériens a rappelé que les certificats médicaux délivrés aux candidats à la présidence de la République doivent répondre aux règles de déontologie médicale. Allusion aux médecins qui sont censés autoriser le président Bouteflika à se représenter pour un cinquième mandat, alors que ce dernier est toujours en Suisse et que sa santé s'est encore dégradée, selon la Tribune de Genève, qui parle de problèmes neurologiques et respiratoires. Enfin, des centaines d'avocats se sont rassemblés hier à Alger, devant le Conseil constitutionnel qui doit statuer d'ici jeudi prochain sur les candidatures. En robe noire et brandissant des drapeaux algériens, ils ont demandé au Conseil constitutionnel qu'il juge irrecevable le dossier d'Abdelaziz Bouteflika. En résumé, il n'y a guère que l'armée qui semble encore le soutenir. Le chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, indéfectible soutien du président, refuse toujours de lui faire défaut.
Et l'opposition algérienne tente de s'organiser, de proposer une alternative à Abdelaziz Bouteflika et ça n'est pas chose simple. Hier, les partis qui réclament son départ organisaient une grande réunion. À Alger, le reportage de Leïla Berato.
Sous une tente face aux journalistes dans les locaux du parti de Ali Benflis, ils sont plus d'une vingtaine autour de la table. Ces personnalités et partis d'opposition font tous le même constat sur la situation du pays.
Les prochaines élections présidentielles représentent une menace sur la stabilité du pays et sur la cohésion sociale et sur l'unité nationale.
Ceux qui discutent sont des habitués de la politique, des partis démocrates aux islamistes en passant par ceux qui ont été au pouvoir et les trotskistes. Pourtant, ils souhaitent tous le report de l'élection. Abderzak Makri, leader du principal parti islamiste, le MSP.
Toutes les parties présentes ici, que ce soit des partis politiques ou des personnalités, ils convergent tous vers le report de ces élections-là. Beaucoup parlent qu'il faut maintenant débattre, il faut négocier avec ceux qui sont en place pour une transition et aller vers un autre processus électoral sur de nouvelles bases constitutionnelles et légales.
Mais dans l'après-midi, Karim Tabou, ancien leader du FFS, un parti d'opposition démocrate, finit par quitter les locaux, estimant que l'opposition fait de la politique, comme les autorités.
Au Japon, les conditions de contrôle judiciaire de Carlos Ghosn jugées insuffisantes par le bureau des procureurs de Tokyo. L'ancien patron de Renault et Nissan a été remis en liberté mercredi dernier contre le versement d'une caution d'1 milliard de yens, l'équivalent de presque 8 millions d'euros. Il a l'interdiction de recevoir des messages sur son smartphone, d'avoir accès à Internet en dehors des bureaux de son avocat. Sa résidence est également sous surveillance vidéo. Pour le bureau des procureurs, ces mesures ne sont pas assez strictes pour empêcher de falsifier certaines preuves. À Tokyo, les précisions de Karine Nishimura.
Mettre des caméras à l'entrée de la résidence de Carlos Ghosn, contrôler l'historique de ses appels téléphoniques, lui interdire de se connecter à Internet, d'envoyer des emails, d'aller à l'étranger, ne suffit pas. Les procureurs sont furieux que celui qu'ils avaient arrêté le 19 novembre dernier à l'arrivée de son avion sur des soupçons de malversation financière soit sorti de prison. Ils avaient fait appel de cette décision, mais ont perdu. Deux jours après la libération de leur plus prestigieuse inculpée, ils dénoncent un contrôle judiciaire, selon eux, perclus de failles. Le procureur adjoint estime que les mesures prises n'empêcheront pas Carlos Ghosn d'altérer ou de détruire des preuves. Le parquet voulait garder l'ex-grand patron en détention jusqu'à la phase finale de préparation du procès, afin de boucler l'enquête sans entrave. Selon les experts, les éléments actuellement en sa possession pourraient être insuffisants pour une condamnation de Carlos Ghosn, bien décidé à obtenir un acquittement.
Le gouvernement italien au bord de la rupture, en cause la ligne TGV Lyon-Turin. La Ligue est pour, le mouvement 5 étoiles est contre. Il considère que c'est un gaspillage de l'argent public. Et comme les deux partis appartiennent à la majorité, l'ambiance est à couteau tiré au gouvernement. Bonjour Olivier Tosseri, pardon.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte penche du côté de l'arrêt du projet et il a demandé hier à la France et à l'Union européenne de le rediscuter.
Exactement, c'est le tunnel de la discorde pour le gouvernement italien et aucune lumière de réconciliation n'est en vue. On ira jusqu'au bout, promettent la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Pour la première, ce serait criminel de renoncer à une infrastructure qui relance les investissements, crée des emplois alors que le pays est entré en récession. Pour le second, c'est une hérésie de creuser un trou dans une montagne qui ne sert à rien, comme l'a dit le ministre italien des Transports. Pour le mouvement 5 étoiles, c'est un gouffre financier, vous l'avez dit, une folie écologique, mais surtout une question de principe, celui de ne pas renoncer à son principal cheval de bataille, la lutte contre ce projet ferroviaire lancé dès l'origine du mouvement 5 étoiles. Alors les deux parties estiment avoir été trop conciliants avec l'autre jusqu'à présent. Le TAV leur donne l'occasion de rassurer leur base électorale avant le scrutin européen au mois de mai. Et ce serait surtout le prétexte idéal pour rompre une alliance qui montre de jour en jour ses limites, ses incohérences, mais surtout son immobilisme.
Merci Olivier Tosseri en direct de Rome. Dans l'actualité française, l'ancien conseiller spécial d'Emmanuel Macron confirme qu'il a été entendu par l'inspection générale de la police nationale. L'homme a été mis en cause dans l'affaire Benalla depuis qu'il a affirmé aux enquêteurs lui avoir transmis des vidéos, vidéos obtenues illégalement auprès de la police et destinées à le disculper dans le déroulé des violences du 1er mai. Bonjour Steven Goyer.
Bonjour.
Alors que sait-on du contenu de cette audition?
Alors on sait à l'heure actuelle ce qu'en dit le journal Le Monde qui a eu accès aux procès-verbaux de l'audition, documents où Ismaël Emelien reconnaît avoir mené la riposte à la polémique déclenchée le 18 juillet après la diffusion des images d'Alexandre Benalla, place de la Contrescarpe. Il ne s'agissait pas d'assurer la défense de M. Benalla, mais celle de l'Élysée et du président de la République qui était prise à partie dans cette crise, explique-t-il aux enquêteurs. Et cette défense, elle passe d'abord, d'après le conseiller, par la diffusion de vidéos en forme de contre-feu sur les réseaux sociaux, avec d'autres angles montrant davantage les manifestants pour justifier en quelque sorte l'intervention d'Alexandre Benalla. L'ancien conseiller évoque d'ailleurs des images où l'on voit un individu agresser un policier avec une chaise, mais c'est surtout une deuxième vidéo, celle où l'on voit un couple jeter des projectiles, des bouteilles sur les forces de l'ordre, qui va rapidement faire parler. Vidéo obtenue, on le sait, illégalement par Alexandre Benalla, sur CD grâce à ses contacts. Monsieur Emelien explique ignorer tout du caractère illégal de cette diffusion, mais transmet à la personne chargée de la riposte numérique, avant de faire marche arrière dans l'après-midi du 19 juillet, au moment où les journalistes commencent à s'intéresser à ces images de vidéosurveillance. Ismaël Emelien explique aussi n'avoir toujours eu, je cite, que des relations professionnelles et cordiales avec Alexandre Benalla et ne l'avoir jamais revu depuis cet épisode.
Merci à vous, Steven Goyer. C'est la journée internationale du droit des femmes et à cette occasion, un nouveau prix a été remis. Le prix Simone Veil, créé et remis par Emmanuel Macron ce matin à l'Élysée. La première lauréate s'appelle Aïssa Doumara. Elle a cofondé l'association de lutte contre les violences faites aux femmes au Cameroun. Bonjour Maïwenn Bordron.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de l'Élysée, c'est donc une personnalité encore inconnue du grand public qui a remporté ce premier prix, Simone Veil.
Oui, Aïssa Doumara est une victime de mariage forcé, devenue militante en faveur des droits des femmes au Cameroun. Dans son discours d'une dizaine de minutes, la première lauréate du prix Simone Veil a voulu donner un exemple concret de son combat au quotidien.
C'est l'histoire de cette petite que je pourrais nommer Yadou, dont le mariage avait déjà été organisé à la veille de son entrée en classe de 6e. À peine elle avait 12 ans. Et grâce aux actions de notre organisation, on a réussi à annuler ce mariage-là.
L'association de lutte contre les violences faites aux femmes se voit donc remettre 100 000 euros par le gouvernement français. Aïssa Doumara a expliqué que cet argent servirait à financer la construction d'un centre pour les femmes victimes de violences au Cameroun. Le président Emmanuel Macron a également rendu hommage à l'action de cette militante camerounaise, une action fidèle à celle engagée par Simone Veil tout au long de sa vie. Écoutez-le.
Et il fallait pour cette première édition du prix Simone Veil de la République française une personnalité emblématique, qui ouvre avec éclat la lignée des femmes qui, chère Aïssa Doumara, vous succéderont comme lauréate de ce prix. Votre combat, pour lequel vous venez de témoigner avec humilité, celui contre les mariages forcés et précoces, contre les violences sexuelles faites aux femmes, c'est un combat qui a été mené pendant des décennies dans le silence, parfois l'opprobre, parce que vous aussi, vous vous êtes indigné et vous n'avez pas cédé.
Emmanuel Macron a enfin annoncé qu'un fonds doté de 120 millions d'euros allait être créé pour soutenir l'action des ONG en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes à travers le monde.
Merci à vous, Maïwenn Bordron. Merci également à Marcos Darras, à la technique. Et la France n'est malheureusement pas épargnée par ces violences faites aux femmes. Les chiffres, on va le voir, sont terribles. Bonjour Roméo Van Maastricht.
Bonjour.
En France, depuis le 1er janvier, au moins 30 femmes n'ont pas survécu au coup de leur conjoint ou ex-conjoint.
Oui, la dernière victime en date, Julie Douib, 34 ans, maman de deux enfants, assassinée par son ex-compagnon au sein même de son propre domicile en Corse. En France, une femme décède de violences conjugales tous les deux jours. L'année dernière, 220 000 femmes ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. Et pourtant, moins d'un quart dépose plainte en gendarmerie. C'est encore pire pour les femmes victimes de viol ou de tentatives de viol. Parmi les 94 000 personnes concernées, à peine 10% d'entre elles le signalent aux autorités. C'est à son domicile qu'une femme apparaît le moins en sécurité. Les conjoints ou ex-conjoints commettent la moitié des viols en France. D'ailleurs, 99% des condamnations pour violences sexuelles concernent des hommes. Des violences contre lesquelles les associations se mobilisent, le mouvement Nous Toutes, Oser le Féminisme ou la Fondation des Femmes. Cette dernière qui vient de sortir un puissant clip vidéo, on y entend des témoignages d'anonymes lus par des célébrités.
On m'a dit de parler, de sortir du silence, mais ma parole est constamment remise en question.
Et on me dit que c'est dans ma tête. Que je suis douillette, j'ai peur, tout le monde se moque.
Mais après, il y a eu les coups, j'essaie de l'ignorer, mais
je suis en danger.
Je fais quoi maintenant?
Des violences également plus visibles depuis le mouvement MeToo en octobre 2017. Le nombre de victimes connues des forces de sécurité a augmenté de 23%.
Merci Roméo Van Maastricht. Le lien biologique est désormais prouvé entre anxiété et le harcèlement scolaire. Une équipe de chercheurs du King's College de Londres a publié une étude basée sur près de 700 adolescents âgés de 14 à 19 ans. Bonjour Maxime Fayol.
Bonjour.
Des études avaient déjà montré une connexion entre le harcèlement à l'école et des troubles dépressifs, mais c'est la première fois qu'un lien scientifique est prouvé.
Et pour cela, les chercheurs anglais se sont basés sur un panel large, 682 adolescents très exactement, des Anglais, des Irlandais, des Allemands, mais aussi des Français. Ils ont été soumis à des questionnaires pour savoir s'ils souffraient de harcèlement scolaire. En parallèle, ils ont aussi subi des examens neurologiques, des IRM, pour voir l'évolution de leur cerveau au fil des années, entre 14 et 19 ans. Au total, 36 adolescents avouent être la cible de harcèlement de façon chronique et répétée. Sur ces cas, les chercheurs arrivent à la conclusion que deux zones du cerveau sont touchées. Il s'agit du putamen et du noyau caudé. Alors attention, ça devient un petit peu technique. Ces deux zones, elles font partie de ce qu'on appelle les ganglions de la base. Ce sont en fait des structures nerveuses qui sont profondément enfouies dans le cerveau et qui sont cruciales pour la mise en forme des mouvements du corps, mais aussi dans les processus cognitifs comme la mémoire ou émotionnels comme le comportement. Et les chercheurs sont formels, c'est bien le harcèlement chronique qui en est la cause, car car la diminution de ces deux zones dont je vous parlais n'est pas retrouvée chez d'autres adolescents stressés ou fragiles psychologiquement. Une donnée fondamentale quand on sait qu'un élève sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Reste à savoir maintenant si le phénomène peut se résorber avec le temps, ce que l'étude ne précise pas.
Merci Maxime Fayol pour ces explications. Deux des trois gardes à vue ordonnés dans l'enquête sur l'agression de deux surveillants pénitentiaires mardi à la prison de Condé-sur-Sarthe ont été levés et l'enquête judiciaire se poursuit tandis que les surveillants pénitentiaires ont reconduit leur mouvement qui s'est traduit par des débrayages et des blocages d'établissements. Quatre prisons sont toujours bloquées, dont celle de Condé, où deux gardiens ont été poignardés mardi par un détenu radicalisé. L'Association des avocats pour la défense des droits des détenus a choisi de réagir à son tour face aux déclarations de certains responsables politiques qu'elle appelle à faire preuve de davantage de mesures. Amélie Morineau est la présidente de l'association, l'écoute.
Les questions sont nécessairement légitimes puisque manifestement une arme a pu être introduite en détention. Qu'il y ait des questions qui soient posées, nous l'entendons parfaitement et elles sont nécessaires pour réussir à éviter ce genre de drame. Pour autant, nous, ce sont les réactions politiques à chaud, sans recul ni réflexion qui nous choquent particulièrement et les contre-vérités qui sont proférées. Depuis quelques jours, on a le sentiment que n'importe qui entre dans n'importe quelle condition dans les établissements pénitentiaires sans aucun contrôle. Et la comparaison qui est systématiquement faite avec l'aéroport nous interpelle. Je ne sais pas ce qui relève de l'instrumentalisation et ce qui relève de la pure méconnaissance de ce qui se passe en détention. La question de la violence en détention, elle est beaucoup plus vaste que ce qu'on entend. Au-delà de l'épisode juste dramatique qui est survenu à Condé-sur-Sarthe, les violences graves à l'encontre des personnels pénitentiaires sont extrêmement rares. En détention, c'est surtout l'isolement, la promiscuité, l'insuffisance d'offres de formation, la pénurie de travail ou l'absence complète d'activité qui sont des facteurs objectifs de risque de violence. Et c'est là-dessus que nous estimons que nous devrions particulièrement travailler. Pour nous, il ne s'agit pas toujours d'opposer les conditions de travail du personnel pénitentiaire aux droits des personnes détenues qui doivent être respectées. Parce que l'amélioration des conditions de détention engendre mécaniquement une amélioration des conditions de travail des surveillants et qui pourrait enfin aussi remplir la mission de surveillance qui leur est attribuée, mais aussi la mission de réinsertion qui, en l'état actuel de nos prisons, est totalement illusoire.
Amélie Morineau au micro de Florence Turme. Midi passé de 47 minutes sur France Culture, c'est l'heure de retrouver l'invité Europe et c'est aujourd'hui Nathalie Griesbeck. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis les locaux de France Bleu Besse, vous êtes eurodéputée Modem, présidente de la commission spéciale terrorisme. On va parler avec vous des femmes en politique. Alors vous avez été en France, c'était au cantonal de 88, la femme politique la plus jeune élue. Le parcours jusqu'à Bruxelles n'a pas dû être un chemin de rose pour vous?
Bien sûr, parce que déjà à cette époque, il y avait très très peu de femmes dans les instances politiques. Et à cette époque-là, j'étais d'ailleurs même pas dans un mouvement politique. J'estimais que j'avais absolument pas besoin pour répondre en écoutant les citoyens à leurs aspirations, essayer de les mettre en mouvement par des actions concrètes, qu'il n'était pas nécessaire d'être dans un mouvement. Donc j'étais à la fois une femme un peu jeune et au milieu d'un monde d'hommes. Mais je n'ai pas décidé pour autant de ressembler aux hommes. Et très vite, j'ai compris combien il était important qu'on soit complémentaires dans l'action concrète. Et je suis restée tout à fait moi-même, je suis restée une femme. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait dans la haute fonction publique, par exemple, quelques femmes qui commençaient à être nommées et qui avaient tendance à imiter totalement les hommes. Et donc, moi, j'estimais que cet engagement public était un engagement de citoyenne et que j'allais pas me transformer en quoi que ce soit d'autre. Mais c'était pas simple. Par exemple, au tout début, lorsque je prenais la parole au Conseil général, personne n'écoutait. Tout le monde parlait pendant que je parlais. Et c'était très drôle. J'étais la seule femme aussi dans l'Assemblée. Sur, je crois qu'on était 51 ou 54, je ne sais plus. Et donc, systématiquement, ils s'en rendaient même pas compte. Donc, j'ai pas fait de clash. Mais tout doucement, assez vite, en travaillant, tout en restant moi-même, J'ai donc finalement eu droit de citer, droit d'être entendu, et j'ai progressé sans me confronter frontalement à mes collègues directement de cette manière-là, mais en démontrant qu'il n'y a pas de monopole donc qui serait attribué à un genre ou à un autre, et voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin.
Annabelle Grelier du service économique de France Culture.
Alors d'autant plus Nathalie Griesbeck que vos centres d'intérêt portent toujours d'ailleurs plutôt sur l'économie, la sécurité que sur les affaires sociales ou la culture, alors sans en dénigrer aucun, mais sont quand même plutôt des domaines que l'on confie assez naturellement à des hommes, beaucoup moins à des femmes. Y a-t-il d'ailleurs une différence en termes d'égalité entre les institutions européennes et la France, et d'autant que vous êtes, vous, présidente de la commission terrorisme?
Oui, il y a des différences parce qu'au Parlement européen, c'est sans doute dû au mode de scrutin, à la proportionnelle et à un seul tour. Cela fait que, et un scrutin de liste, j'allais oublier, à parité, donc ça fait qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes élus. Et donc les dossiers sont souvent attribués à ceux qui sont là et qui travaillent. Et donc, moi, il n'y a eu aucune difficulté quant à mon sexe d'être élue présidente de la commission de lutte contre le terrorisme.
Il n'y a pas eu de question de genre sur votre fonction.
Non, pas de question de genre. En revanche, évidemment, des grosses envies par d'autres membres d'exercer cette responsabilité. Et donc, c'est pas du tout pareil que, enfin, en tous les cas, au début, moi, quand j'ai été élue pour la première fois conseiller général, j'ai souhaité entrer à la commission des finances. Ça s'appelait finances. Et là, tous les collègues ont dit, ah non, il n'y en est pas question, c'est non. Et donc ils ont. Alors moi j'y allais pas parce que je trouvais que c'était un monde d'hommes. J'y allais parce que aller aux finances, ça vous permet de voir de l'intérieur tout le fonctionnement de l'institution et d'évaluer comment vous pouvez concrètement exercer votre responsabilité. D'ailleurs plutôt votre responsabilité que votre pouvoir. Ça c'est une différence à mes yeux entre les hommes et les femmes de façon concrète sur le terrain. Et donc ils étaient tous opposés. Mais je me suis quand même portée candidate et ensuite ils se sont emmêlés les pinceaux dans le vote, ce qui fait que j'ai été élue. Et alors au fond, au lieu d'entrer par la porte, je suis rentrée par la fenêtre et puis j'étais membre. Et donc après, j'ai présidé d'autres commissions, conseil général, etc. Mais vous voyez, c'était pas une question de rapport de force, c'était un centre d'intérêt. Et donc j'ai ensuite je me suis occupée d'affaires économiques, de finances quand j'étais première adjointe. Au maire, auprès de Jean-Marie Rouge, où j'ai appris beaucoup de choses. J'avais plutôt, effectivement, des domaines qu'on donne d'habitude aux hommes. Alors, mais sans être suffragette. Je pense que le combat pour l'égalité des droits des hommes, entre les hommes et les femmes, c'est une forme de combat. J'étais même à une époque, j'étais pas favorable au quota, mais j'ai changé. Parce que je trouvais qu'on était dans un système qui devait être universaliste, qu'il n'y avait pas, on devait pas donner des compétences à des hommes parce qu'ils étaient des hommes et inversement à des femmes parce qu'elles sont des femmes. Parce qu'on risquait d'avoir des potiches à des postes de responsabilité.
Mais on n'en est pas là tout de même, hein, Nathalie Griesbeck. Ouais. On n'en est pas encore, comme disait Françoise Giroud.
Vous connaissez la belle phrase de Françoise Giroud, ce que j'allais dire. Oui, on n'en est pas là.
Oui,
on n'a pas
la
encore
compétence des femmes.
On n'y est pas encore à des postes de responsabilité.
Ouais. Au sein du Parlement européen, on sait que les femmes président 12 commissions sur 24, donc ça fait une belle parité, hein, dont celle du contrôle budgétaire, de l'environnement, les transports. En revanche, le Parlement européen n'a été présidé qu'à deux reprises par une femme depuis 1970. Simone Veil et Nicole Fontaine, 2 sur 14. Alors là, c'est quand même un plafond de verre sur les postes de pouvoir.
Bien sûr, et même à cet égard, dans ces postes très très hauts de responsabilité, on pourrait en parler aussi dans le monde économique, on avait bien progressé, puis on est sur un palier. On a un peu du mal à nouveau à continuer de progresser vers une égalité à cet égard. C'est vrai que c'est deux femmes françaises qui ont été présidentes, dont Simone Veil, qui est pour moi une icône et qui est un modèle et qui est le symbole de toutes les horreurs du XXe siècle en même temps que des progrès de la construction européenne. sont quand même deux femmes françaises. Et Simone Veil, en outre, a été non seulement la première femme présidente du Parlement européen, mais la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct. Donc c'est énorme, c'est magnifique, mais on stationne un peu. Cela dit, quand on se regarde et qu'on se compare, on se rassure. Malheureusement, en France, l'Assemblée nationale n'a jamais été présidée par une femme, à ma connaissance, jusqu'à présent. Donc on a aussi une marge de manœuvre, une marge de progression, pardon, au sein de nos propres institutions. Donc il faut bien aussi regarder cela et continuer de progresser. Et pour moi, il y a plusieurs combats qui sont menés au plan européen, notamment depuis les années 70-75, en termes d'égalité. Pour moi, le combat principal, si on doit prioriser, c'est l'égalité salariale. Il y a encore des écarts, et aussi dans notre pays, qui sont pas compréhensibles. Et il y a ensuite des tas de choses qui peuvent être faites, et au plan européen, les premières directives en termes d'égalité datent des années 70. Hein. La directive de 75 est la première à demander l'égalité, enfin la lutte contre les discriminations salariales.
Et on n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Nathalie Griesbeck, d'avoir accepté cette interview dans le journal de midi et demi de France Culture. On l'a appris, un homme migrant d'une vingtaine d'années est décédé ce matin après avoir été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire dans la remorque d'un poids lourd stationné au port de Calais. C'est ce qu'on a appris auprès de la préfecture. Cet après-midi, de la pluie sur la pointe bretonne, le Cotentin et le Massif central. Ailleurs, c'est le beau temps qui dominera. Température 12, 10 à Brest, 13 à Paris, 16 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Benoît Bouscarel.